Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière,
Serge Halimi.
Qui est toujours du monde diplomatique, il ne le dit toujours pas, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Bond en arrière, aux éditions Fayard. Un livre qui parle des réformes, justement. Alors, la semaine dernière, on a vu que les choses n'étaient pas si claires que ce qu'on veut bien nous dire dans les médias, que ce soit les journalistes ou les hommes politiques.
Au contraire, mais... elles sont très claires.
Mais parfois quand même, peut-être envahi par l'idéologie ambiante, je finis par me dire, mais quand même, c'est une nécessité tout ça, ces réformes de, pour pouvoir s'insérer dans cette mondialisation qui nous met tous en concurrence les uns contre les autres. C'est-à-dire que si on ne passe pas sous ce joug-là, forcément, la France ne va pas réussir à tenir sa place, les entreprises vont se délocaliser partout, et donc ça va être une catastrophe absolue. Donc c'est ça qui justifie que, qu'effectivement, il y a une nécessité des réformes.
Oui, ce que vous évoquez, c'est effectivement la force, la puissance d'un discours de la fatalité. Ce discours de la fatalité, on n'y peut rien, c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative. C'est le discours que tenait Margaret Thatcher dans les années 80 et que d'autres ont repris. Ou bien les gens comme Minc qui expliquent que ce sont des lois égales aux lois de la biologie ou de la pesanteur, qu'une pomme tombe, on n'y peut rien, le marché c'est un peu comme la pomme. Et d'ailleurs, dans la plupart des journaux maintenant, on nous présente les marchés comme des forces tutélaires. Lorsque les déclarations politiques sont faites, on nous dit les marchés ont bien accueilli, les marchés ont mal accueilli, les marchés s'inquiètent, les marchés estiment que, comme si les marchés étaient une force naturelle, politique, alors que naturellement, c'est le choix des détenteurs de capitaux. Et que le choix des détenteurs de capitaux n'a pas de raison particulière de nous imposer nos décisions si nous souhaitons, en tant que citoyens, rassembler dans une collectivité, en faire d'autres, parce que sinon, c'est évidemment le socle même de la démocratie qui est en cause, comme c'est bien le cas depuis très longues années. Alors je crois que pour lutter contre ce discours de la fatalité, de la fausse fatalité, ce que Pierre Bourdieu appelait aussi cette politique de la dépolitisation, il faut toujours rappeler que les marchés sont une création politique. Il n'y a pas de marché sans puissance politique. Lorsqu'on parle du libre-échange, le libre-échange n'est pas tombé du ciel. Le libre-échange est le produit de traités qui ont été votés par des forces politiques. Lorsqu'on parle de l'AGCS en ce moment, qui menace maintenant tous les services, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la culture. L'AGCS n'est pas le produit d'un typhon. L'AGCS, c'est une décision qui sera prise à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'OMC aussi, et qui aboutira à créer cette pression marchande à laquelle on nous dira par la suite qu'on ne peut pas résister, alors même qu'elle a été déchaînée. On nous enchaîne en quelque sorte avec ce discours de la fatalité, alors qu'on déchaîne les forces du marché auxquelles on prétend qu'on ne peut pas résister. Et ça, c'est une chose qu'il faut toujours savoir. Les traités de libre-échange, comme le traité de l'ALENA entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça n'est pas un texte d'un article disant « l'échange est libre entre l'ALENA, le Mexique et le Canada ». Ce sont des gros volumes de plusieurs centaines de pages qui disent produit par produit quelles seront les règles qui détermineront le commerce de telle et de telle marchandise. Et ce sont des règles qui sont décidées par les parlementaires américains, canadiens, mexicains, et dans le cas d'espèce, surtout par les parlementaires américains. En d'autres termes, par des autorités politiques qui ont été élues par les citoyens, mais qui, dans le cas des États-Unis, sont au moins autant tributaires des donations et des financements des entreprises multinationales qu'ils sont tributaires des décisions que prennent leurs électeurs. Et c'est ça, le marché. Le marché, ça n'est pas une force naturelle, c'est un produit de l'action collective, c'est un produit en tout cas de l'action des forces politiques. Les forces politiques qui ont déchaîné le marché pourraient de la même manière le contenir Et c'est bien ce qui s'est passé pendant les années qu'on a appelées les années des Trente Glorieuses, où il y avait un marché qui était aussi déchaîné, où les résultats étaient perçus comme tellement mauvais qu'on a décidé de réglementer le marché, qu'on a décidé de créer des entreprises publiques qui ne seraient pas tributaires de la seule loi du marché, qu'on a décidé de créer les assurances sociales, qu'on a décidé de créer les congés payés. Si on avait uniquement écouté la loi du marché, ces contraintes-là imposées aux entrepreneurs, aux patrons, n'auraient jamais existé.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les parlementaires, qui normalement devraient au moins être les garants du choix démocratique, ne s'élèvent pas contre ça, n'ont jamais pointé les choses, y compris au niveau, par exemple, des partis de gauche. J'ai pas entendu pendant les 20 dernières années les partis de gauche s'élever en nous disant que finalement tout relevait de choix politiques, qu'il y avait des choix politiques qui étaient en train d'être faits et qu'il fallait qu'on se réveille si on pensait qu'effectivement c'était pas positif.
Bon, d'abord, il ne faut pas dire qu'il ne s'élève pas ou il ne s'élève jamais, y compris aux États-Unis, lorsqu'il y a eu le débat sur le vote de l'ALENA. Vous avez un certain nombre de discours de parlementaires démocrates, plus liés aux milieux syndicaux qu'aux milieux d'affaires, qui ont tenu un discours assez proche de celui que je viens de vous tenir. Dans le cas de la France, il y a une situation qui est un peu différente, puisque, comme vous le savez, en 81, la gauche vient au pouvoir sur la base d'un programme, et en 83, elle décide de complètement changer de cours, pour des raisons qui sont trop loin, qui seraient trop longs d'aborder ici. Mais à partir du moment où le président de la République décide, avec un gouvernement qui est en quelque sorte à sa main et une majorité parlementaire qui ne s'exprime pas, de changer de cours, ils n'ont pas intérêt à présenter leur décision comme autre chose que le produit de cette fatalité que vous évoquiez. Précisément, à partir de 1983, ils vont vous dire « Oui, nous aussi, on mène une politique libérale parce qu'il n'y a pas d'alternative. » Et en d'autres termes, nous mènerons une politique libérale qui sera moins injuste, moins brutale que la politique libérale que mènerait la droite. Ça sera un peu leur argumentation. Et non seulement ils ne vont pas défendre les acquis du secteur public, les acquis sociaux qui ont été construits pendant des années et des années, mais très souvent ils vont être les architectes de leur mise en cause. On se souvient que, par exemple, dans le cas de France Télécom, gigantesque entreprise, la privatisation ou la dynamique de la privatisation a été entreprise par un gouvernement de gauche. Et naturellement, pour s'en excuser devant leurs électeurs, comme ils ne peuvent pas dire « nous avons décidé de mener la politique de nos adversaires », eh bien, ils invoqueront, comme vous le faisiez tout à l'heure, ce discours de la fausse fatalité, cette politique de la dépolitisation. On n'y peut rien, il n'y a pas d'alternative. Il vaut mieux que ce soit nous qui le fassions que nos adversaires qui, s'ils maniaient le couteau, le manieraient avec encore plus de sauvagerie.
Des souhaits des hommes avec Serge Halimi pendant la musique, j'ai réfléchi ça et je me disais, mais parmi les choses qui nous sont présentées comme des fatalités aussi, outre les marchés, il y a la mondialisation. La mondialisation, c'est quelque chose qui existe, qui est de l'ordre de la pomme qui est tombée là aussi. Ça ne pouvait pas être autrement, c'est une bonne chose. Et d'un autre côté, il y a la même chose pour l'Europe. C'est une nécessité historique, c'est un bien absolu. Quelles que soient les institutions ou la forme que prennent les choses, ça m'interroge.
C'est-à-dire que dans le cas de l'Europe, comme dans d'autres domaines, vous avez une espèce de hiatus entre le marketing de l'Europe et sa réalité. Le marketing de l'Europe, ça a été il faut qu'on fasse poids face à la puissance des États-Unis, du Japon, de la Chine, etc. Et qu'on soit en quelque sorte un contre-pouvoir à ces puissances mondiales. La réalité de l'Europe, c'est un marché. La réalité de l'Europe, c'est un vaste marché. Et pour que ce marché ne cesse de s'étendre, on vient récemment d'intégrer 10 nouveaux membres qui n'ont aucune volonté de s'opposer aux États-Unis, qui sont, si vous voulez, de nouveaux chevaux de Troie de l'influence américaine dans l'Europe. Donc vous avez ce paradoxe d'une Europe qui doit s'étendre pour faire davantage poids face aux États-Unis et qui s'étend en intégrant toujours plus de nouveaux membres qui eux-mêmes n'ont aucun intérêt à s'opposer aux États-Unis. Je rappelle par exemple que le nouveau Premier ministre polonais, social-démocrate, pourtant était, il y a quelques semaines encore, l'adjoint de M. Paul Bremer, le gouverneur d'Irak, le gouverneur américain d'Irak. Vous voyez donc le degré très relatif d'indépendance de ces pays-là. Et cette différence entre le marketing et la réalité est quelque chose de fondamental. Parce qu'il faut bien comprendre que le libéralisme n'est pas populaire. Les gens ne veulent pas la privatisation des services publics, ne veulent pas la privatisation des entreprises publiques. Au Royaume-Uni, par exemple, aucune des privatisations n'a été populaire. La majorité des citoyens étaient opposés à chacune des privatisations qui ont été entreprises. Et pourtant, conservateurs et travaillistes ont entrepris des privatisations. En Nouvelle-Zélande, vous aviez seulement 4% des Néo-Zélandais qui étaient favorables à la privatisation des forêts. Et pourtant, les forêts ont été privatisées. En France, lorsque le programme ultralibéral a été présenté aux Français, il l'a été par Monsieur Alain Madelin, qui a obtenu 3,91% lors de la dernière élection présidentielle. Et pourtant, en 2007, il est vraisemblable que la France ressemblera plus aux espoirs et aux promesses d'Alain Madelin qu'aux espoirs et aux promesses des autres candidats qui ont obtenu davantage de suffrages que lui. Il faut donc que la politique soit une énorme machine à transformer les programmes des hommes politiques et les attentes des citoyens en des politiques néolibérales. En quelque sorte, il y a une espèce de déconnexion totale entre ce que demandent les gens et ce qu'on leur donne à la sortie. Et cette déconnexion n'existe que parce que précisément ce qui arrive à la sortie est présenté comme le produit d'une série d'enchaînements, d'une fatalité à laquelle on ne peut rien faire d'autre que consentir.
Mais dans ces coquilles, la mondialisation ou l'Europe, on peut, disent certains en tous les cas, faire du social.
Oui, ça c'est l'éternel tarte à la crème, l'éternel rêve ou argument, encore une fois, de marketing de l'Europe. Vous savez, par exemple, que dans le projet de constitution européenne dont il est question, il y a une clause qui présente l'Europe comme un ensemble régi par le principe de la concurrence et de la concurrence non faussée. Autant dire que ce principe constitutionnel rendra beaucoup plus difficile, presque constitutionnellement impossible, l'organisation même de services publics qui peuvent choisir d'accorder certains avantages, certaines faveurs aux populations les plus isolées et de ne pas leur imposer la loi de la concurrence et la loi du marché, faute de quoi, quel serait l'intérêt d'avoir une agence postale dans un village isolé? Ça n'est pas rentable, on le ferme. Et pour que vous ne fermiez pas, il faut bien que vous préleviez un certain prix sur ceux qui sont dans des zones beaucoup plus peuplées, afin d'acheminer le courrier dans le village. Et si vous avez le principe de la concurrence totale, eh bien certaines entreprises vont faire concurrence à la poste dans les zones où c'est le plus profitable, ce qui empêchera la poste de dégager les marges qui lui permettent de servir ses usagers les plus isolés. En d'autres termes, vous avez maintenant des principes constitutionnels européens qui risquent de mettre en cause notre modèle social. Mais là-dessus, vous n'avez pas de débat. Là, on est en train d'être dans une phase électorale, paraît-il, à propos de l'élection européenne. La discussion sur la Constitution est très limitée. Les socialistes ont décidé de faire de cette élection un référendum sur la politique de Monsieur Raffarin, ce qui, très franchement, n'est pas l'objet de la consultation, puisque la politique de Monsieur Raffarin est appliquée avec encore plus de sévérité par les amis socialistes des socialistes français en Allemagne. Donc vous avez en quelque sorte une transformation permanente des enjeux politiques de telle manière à ce que leurs conséquences économiques, les décisions qui sont prises, n'aient aucun rapport avec les choix des citoyens.
Des souhaits des hommes et toujours plus en pointe dans la musique, bien entendu, hein, puisqu'on là c'était Maurice Chevalier. Il y a quelque chose, encore une fois, que je comprends pas. C'est ma parole rituelle, faut pas s'inquiéter. J'arrive pas très bien à comprendre comment ça se fait que les simples gens, les citoyens de base, finalement réussissent à croire tout ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, la nécessité des réformes, oui, c'est une nécessité. La mondialisation, c'est une nécessité. L'Europe, c'est une nécessité. Oui, il faut faire venir les dix nouveaux, etc., etc. Comment c'est possible, tout ça?
D'abord, je ne suis pas certain qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Mais il y a deux dynamiques qui ont malheureusement opéré dans le même sens. La première, c'est la destruction des organes de résistance à ce genre de politique. Et un organe de résistance à ce genre de politique très important, c'était les syndicats. Or, on sait que les néolibéraux, Hayek, mais aussi Friedman, et puis au plan politique, des gens comme Reagan, Thatcher, ont tout de suite compris que pour faire avancer leurs réformes, il était nécessaire de casser ce foyer d'où partaient les grandes résistances, c'est-à-dire le monde du travail. Et ont pris un certain nombre de lois, là encore, ça n'a pas été une espèce d'évolution naturelle, et ont pris un certain nombre de lois et de dispositions qui ont réduit la part des syndicats dans l'économie et dans la vie sociale. On parlait des privatisations tout à l'heure. L'un des effets des privatisations, c'est d'affaiblir la puissance des syndicats, puisque les syndicats sont toujours plus puissants dans le secteur public que dans le secteur privé. Si la SNCF avait été privatisée, je ne sais pas, en 75, il n'y aurait probablement pas eu de mouvement social en 95, en novembre-décembre 95, parce que c'est parti de la SNCF, c'est parti aussi de la RATP, c'est parti du secteur public, et c'est là, en général, que se produisent les grandes manifestations depuis longtemps. Donc, première dimension, on casse cette machine à résister aux politiques néolibérales et individualistes que sont les syndicats. Et deuxième pièce du dispositif, elle est évidemment corollaire de la première, les médias. D'abord parce que les médias ont un discours antisyndical presque systématique, qu'ils ne cessent d'assimiler les syndicats à une espèce de repère d'avantages acquis, de corporatistes, de ronds de cuir, qui ne font rien, qui paralysent le pays, qui prennent les Français en otage, etc. Mais aussi parce que les médias, depuis plusieurs années, en France, l'évolution est particulièrement frappante, sont de plus en plus détenus par des grandes multinationales, qu'il s'agisse pour la presse et l'édition de Dassault, de Lagardère, mais aussi de Bouygues, mais aussi de Bernard Arnault. Quand vous faites le total de Dassault plus Lagardère, plus Bouygues, plus Arnault, plus Pinault, vous avez la quasi-totalité de la presse et de l'édition en France. Eh bien, assez logiquement, ceux qui détiennent ces moyens de communication et d'information ont tendance à favoriser les politiques qui les favorisent eux-mêmes. Il y a une espèce de lien presque simple, presque naturel, qui les pousse à favoriser les politiques qui les favorisent eux-mêmes. Et comme très souvent, ils mettent au poste de commande des gens qui appartiennent aux milieux les plus privilégiés, les journalistes sont de plus en plus souvent issus de la bourgeoisie, qui bénéficient du système à leur manière, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils mettent en cause un système qui leur rapporte et un système qui est très largement perçu comme n'ayant aucune alternative et comme étant globalement plutôt favorable dans le milieu social dont ils sont issus. Donc, quand vous avez cette conjonction de l'organe de résistance de la classe ouvrière et des employés qui a été amoindri, et puis de cette machine, en quelque sorte, à naturaliser le capitalisme, à le présenter comme bon, comme juste, comme moderne, qui est de plus en plus détenu par ceux qui ont intérêt à ce système, qui sont les grands groupes industriels et financiers, vous avez effectivement une force considérable à laquelle il n'est pas facile de s'opposer, même si, naturellement, il est nécessaire de le faire.
Mais justement, quelle forme ça peut prendre de s'opposer à toutes ces tendances lourdes de fond ?
Écoutez, dans l'histoire, il y a eu des périodes plus difficiles encore, et puis ça a fini par finir. Cette phrase de Simone de Beauvoir dans Les Mandarins, elle dit « et puis ça a fini par finir ». Et en général, quand les choses finissent par finir, c'est le moment où on a le sentiment qu'on est au fond du puits et que on va en continuer à tomber. Le redressement se produit. Imaginons d'autres périodes beaucoup plus ardues où les choses se sont produites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de ce que nous pensions en 95, à la fin 94, au moment de la période de Balladur. Il y avait un sentiment de gigantesque découragement. La droite est là pour toujours. Il n'y a pas de résistance. Ce qu'on avait connu en 36, en 68, de gigantesques manifestations avec des millions de personnes, on ne le connaîtrait plus parce que les Français étaient devenus individualiste, et puis ça a fini par finir. Ben je crois que c'est ce qu'il faut se dire, et il faut se battre pour que la fin soit la plus proche possible. Mais ce système a une faiblesse considérable. C'est que ce système n'est pas populaire, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il est imposé, en quelque sorte, il nous est imposé comme le produit d'une fatalité, mais dès lors qu'on démonte les rouages de la fatalité, et c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire, dès lors qu'on démonte les rouages de la fatalité, qu'on présente ça comme des choix politiques, qu'après on interpelle nos responsables politiques pour leur dire qu'on ne leur fait pas confiance, qu'ils ne font pas leur travail, ou qu'ils font le travail qu'ils font au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres, eh bien, alors là, les choses peuvent se terminer.
Et oui, c'était donc des sous et des hommes en compagnie de Serge Halimi. C'était la deuxième semaine qu'on le recevait. Je vous rappelle qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Bond en arrière, avec comme sous-titre Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde. C'est archi documenté. C'est passionnant et c'est donc aux éditions Fayard, je ne peux que vous en recommander la lecture. Je vous rappelle par ailleurs qu'il avait écrit Les Nouveaux Chiens de Garde aux éditions Raison d'Agir et puis aussi un autre livre absolument savoureux, ça s'appelait Quand la gauche essayait. Eh bien écoutez, en tous les cas, la semaine prochaine, on va parler, tout à l'heure on parlait de l'importance des organisations syndicales dans l'opposition qui aurait pu avoir lieu au libéralisme. Donc on va recevoir René Mouriot qui travaille au CIVIPOF, donc sur l'évolution des syndicats. On l'aura pendant 2 semaines lui aussi. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine j'espère.